Un quart d'heure, c'est long ou c'est court? On fait quoi? On dit quoi? On lit quoi en un quart d'heure? 15 minutes, 900 secondes et en voilà déjà 12 de passé pour ne rien dire, pour dire le temps qui passe.
Pascal Paradou.
Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, c'est la devise du Panthéon, ce temple laïque qui, au cœur du Quartier Latin, accueille la mémoire et les dépouilles des hommes et femmes illustres. Et cette devise va se compléter par le titre d'une installation conçue par l'artiste Nicolas Friese pendant quelques heures, 24 heures, les pensées géantes. Une installation qui est à l'intérieur du Panthéon pour le quart d'heure de lecture nationale. Bonjour Nicolas Friese.
Bonjour.
Ce quart d'heure, c'est une initiative du Centre National du Livre pour encourager à la lecture. Donc, ce n'est pas obligatoire. Mais dans les écoles, j'imagine que hop, un quart d'heure de lecture pour tout le monde, c'est un peu coercitif pour vous ou incitatif ?
Alors, je ne vais pas dire que c'est coercitif, je suis solidaire avec le CNL, mais c'est vrai que c'est un peu... l'idée, je pense que leur idée, c'était de dire un quart d'heure, allez, c'est pas grave, on y va, on le fait, ça peut donner envie, ça incite, ça suggère, ça, voilà. Après, effectivement, on espère tous que les gens ne voient pas ça comme une injonction et surtout qu'ils continuent de lire après un quart d'heure.
Un peu plus d'un quart d'heure. Est-ce que vous étiez un lecteur enfant ou seule la musique vous passionnait ?
Non, j'étais lecteur. Mais bon, c'est vrai que la musique était d'abord au premier plan.
Comment elle est venue, cette musique, dans votre vie ?
Oh, j'ai commencé le piano à 5 ans et j'ai commencé même à faire de l'électroacoustique à 7 ans, 8 ans avec un magnétophone à cassette. Enfin, j'étais déjà prédisposé pour faire des choses très expérimentales. Voilà, donc je suis depuis tout petit.
Donc un petit génie ?
Oh, je n'irai pas jusque-là, mais...
Oh, votre mère ou votre père devait dire ça, vous pensez ça, non ?
Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, j'ai été plongé dedans, je n'ai jamais su en sortir.
Alors pour cet événement, pour ce quart d'heure de lecture, vous travaillez depuis des mois sur une installation dont personne n'a encore rien vu et qui s'intitule les pensées géantes. Donc il faut, Nicolas Friese, assouvir ma curiosité. Qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-on voir?
Alors déjà, l'installation est très simple. Dans les deux transepts, donc à droite et à gauche dans le Panthéon, on installe des immenses écrans. Il y a donc quatre écrans, deux écrans de chaque côté. On met des transats pour que les gens puissent s'allonger. Et puis les gens commencent à... L'idée, c'était quand même de lire à plusieurs. Vous savez, quand on lit, on n'aime pas trop qu'on lise par-dessus notre épaule. Et c'est la seule discipline artistique qui est solitaire. Le théâtre, la danse, le cinéma, la vidéo, tout ça, c'est ensemble. Et là, c'est tout seul chez soi. Et c'est aussi pour ça qu'on a du mal à lire, parce qu'il faut s'arrêter, en fait. Il faut s'arrêter, il n'y a pas d'image, il faut faire l'effort d'y aller, etc. Ça demande du temps. Et là, je me suis dit, il faut qu'on combatte tout ça. Alors, allez-y, transformons la lecture en art collectif. Et donc, mettons-nous tous ensemble dans des transats et lisons ensemble. Alors, évidemment... Pour pas que ça soit non plus trop ingrat, parce que la lecture, ça paraît toujours un peu ingrat, il y a deux effets. C'est d'abord, les textes arrivent très animés, il y a des mots qui arrivent comme ça, qui roulent, il y a des mots qui surgissent. Donc là, le livre, tout d'un coup, s'anime comme une vidéo. Et puis, il y a une ambiance musicale très, très concentrée qui nous aide et qui nous rend bien.
Mais on lit quoi ?
Et alors, on lit plein de choses.
En un quart d'heure, ça va vite.
Alors, on lit des gens qui sont actuellement dans le Panthéon.
Simone Veil,
Marie Curie, Voltaire, Dumas, Alexandre Dumas. T'as. On lit, j'ai pris un manga. On lit, bah oui, il fallait pour tout le monde. Hein. On lit de la poésie contemporaine. On lit. J'ai montré aussi d'autres écritures qui sont des hiéroglyphes ou de l'écriture chinoise ou de la calligraphie arabe avec de poèmes palestiniens.
Mais donc on lit pas ça, on sait pas lire les
poèmes
palestiniens.
Il y a la traduction, mais c'est au moins pour voir les écritures. J'ai aussi montré des partitions de trois femmes compositrices pour montrer comment toutes les écritures. Finalement, quand on pense à la lecture, on pense au français, mais en fait, on peut lire d'autres langues. On lit par exemple les formules mathématiques du Pendule de Foucault, qui est au Panthéon. Donc voilà, l'idée c'était de montrer tout ce que l'écriture et la lecture peuvent suggérer comme envie pour chacun de nous de nous y plonger.
Dans un lien un peu indissociable, lecture-écriture.
Exactement, voilà.
Il y a une phrase, une pensée qui vous touche particulièrement dans toutes celles que vous avez, que vous allez projeter et que vous avez travaillées.
Alors, dans celles que je vais projeter, pas directement, il y en a une. J'ai fait une émission pour France Culture sur Roland Barthes il n'y a pas longtemps, et il y a une phrase de lui que j'adore. C'est « Mon corps n'a pas les mêmes idées que moi ». Franchement, c'est beau, ça, non ?
Des mots et de la musique. Alors, on va parler de musique, car vous êtes avant tout un compositeur, Nicolas Frise. Mais je vous propose de faire un saut ailleurs, avec une technique très, très rudimentaire qui s'appelle le téléphone. On va allumer le portable pour 3 minutes seulement, puisque le slogan de ce quart d'heure national de lecture, c'est aussi « Éteignez votre portable, allumez votre cerveau ». On va faire les deux en même temps. Allumez le cerveau et le portable. Ailleurs à Cotonou avec Sandrine Plateau. Bonjour Madame l'ambassadrice.
Bonjour.
Vous représentez la Belgique au Bénin et au Togo et vous présidez aussi le groupe des ambassadeurs francophones. Vous êtes donc aux avant-postes pour promouvoir la francophonie par tous les moyens, que ce soit la littérature ou la bande dessinée.
Tout à fait. Donc, le groupe des ambassadeurs francophones existe au Bénin comme dans de nombreux autres pays de par le monde. Et donc, nous nous retrouvons au niveau des ambassades des pays de la francophonie, en particulier durant ce mois de mars, le mois de la francophonie, pour proposer des activités pour mettre en valeur la richesse et la diversité culturelle au sein de la francophonie via, en effet, des projections de films, l'organisation d'événements musicaux ou encore voilà, les rencontres de la bande dessinée, des rencontres littéraires, des ateliers jeunesse, tout un programme.
Alors, vous évoquez la bande dessinée parce qu'en effet, commencent aujourd'hui à Cotonou les rencontres internationales de la BD. Est-ce qu'elle a un fort potentiel éducatif, la BD ?
Notamment, elle a un fort potentiel éducatif. À la première base, en fait, on sait que la bande dessinée, c'est surtout un divertissement. Je pense qu'on a tous les souvenirs de l'enfance où on a découvert la langue, la lecture via la bande dessinée. En tout cas, c'est un excellent divertissement. En tant que Belge, je ne pourrais pas dire le contraire. Chez nous, c'est même un pilier de notre culture. Mais c'est aussi donc un excellent moyen pour partager l'histoire et la culture d'un pays ou même d'un continent. Et ça peut même devenir une réelle industrie culturelle et créative. Voilà, il y a certainement encore des défis qui persistent pour la développer sur le continent. Et donc, c'est le but de ce projet Ressources éducatives qui vise à développer ce secteur dans les pays d'Afrique francophone, parce qu'il y a encore évidemment toute une industrie à développer autour de ça. Et le but, c'est de rassembler tous des BDistes et des acteurs du secteur pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer encore ce secteur-là.
Et en effet, dans ce projet Ressources éducatives, j'ai vu dans le dossier qu'il y avait un album qui allait être édité à l'occasion, qui s'appelle Aventure Cotonou. Et qui fait de la ville de Cotonou le décor d'une bande dessinée. Quels sont les temps forts de ce mois pour vous, Madame l'ambassadrice ?
Les temps forts, il y en aura vraiment plusieurs et je pense que c'est vraiment cette diversité-là, cette richesse des différents événements qui est vraiment la ligne rouge au final. Parce que voilà, on aura de la musique avec des mélanges assez éclectiques entre musique guana et électronique. On aura de notre côté un quiz musical sur les grands succès de la francophonie au niveau belge. On aura donc ces rencontres de la bande dessinée, on aura des rencontres littéraires avec une chroniqueuse que vous connaissez certainement bien, Rukyata Ouedraogo, d'autres intervenants bien connu sur le thème de la bande dessinée, mais aussi des francophonies en général, vu cette diversité, les différents contextes dans lesquels se projette la francophonie. Donc voilà, c'est vraiment une invitation à tous à découvrir ces différentes rencontres, ces différentes programmations, que vous soyez à Cotonou ou ailleurs, profitez-en pour vraiment découvrir, élargir vos horizons et découvrir cette programmation francophone riche et variée.
Eh bien, merci beaucoup, Madame l'ambassadrice Sandrine Plateau. Et on va commencer avec ces rencontres internationales de la BD qui commencent aujourd'hui jusqu'au 16 mars à Cotonou. Bonne journée.
Merci, à vous aussi.
J'aime lire les grands récits de chasse, l'odeur de la besace, le muscle du cheval, les plumes sous les balles. J'aime lire l'album de la comtesse, les tresses et la détresse. J'aime quand un simple mousse la trousse et la détrousse. J'aime lire les trajectoires en pente, les épopées sanglantes, brusquement et soudain. Pourtant tout allait bien. J'aime lire je la laisserai là, cachetée silencieuse. Je ne risquerai pas. J'aime lire les rapports de police, les tortures, les supplices. J'aime la garde à vue, le pas vers la bavure. J'aime lire les histoires de guerre, les vraies, celles d'hier, celles qui se terminaient et la vie reprenait. J'aime lire. Je ne risquerai pas, je ne la lirai pas, je la laisserai là, grenade silencieuse, je ne risquerai pas. J'aime lire, mais non, tout m'est pas ça, non, ça, je n'aime pas. Pas ces histoires-là, pas mes histoires à moi, non. Je ne la lirai pas, je la laisserai là. Grenade silencieuse, et je ne saurai pas.
Albin de la Simone avec son nouvel album « Toi là-bas » sur RFI et ce titre tout à fait adapté aujourd'hui pour évoquer le quart d'heure de lecture nationale « J'aime lire ». Nicolas Fries, je vous présente comme musicien, mais j'ai l'impression que c'est une définition un peu restrictive, du moins telle qu'on l'entend communément. Est-ce qu'elle vous va ou...
Oui, en fait, je ne suis pas musicien parce que je joue pas vraiment d'instruments. Enfin, je joue du piano, mais pas sérieusement. Donc, je suis plutôt compositeur. Mais c'est vrai que par ailleurs, je fais d'autres choses. Je suis impliqué dans des actions en prison. Je suis impliqué sur les questions du travail. Je fais de la scénographie, je fais de l'édition, je sors des livres. Enfin, voilà, donc je fais, comme tous les artistes, on fait toujours beaucoup de choses.
Oui, mais vous faites de la musique surtout avec plein de choses aussi.
Voilà, alors la particularité, effectivement, c'est que je vais... Là où il ne faut pas aller, c'est-à-dire je fais des concerts dans des hôpitaux, dans des usines, dans des prisons, dans des espaces publics, dans des bureaux, dans des voilà. Et ensuite j'utilise beaucoup dans les instruments, j'utilise beaucoup de choses qui sont des objets quotidiens, des choses que les gens fabriquent, par exemple dans les usines. Et puis je mélange beaucoup les amateurs et les professionnels.
Et vous êtes souvent à l'extérieur.
Et je suis en tout cas, je suis à l'extérieur de là où on m'attend.
Là, en arrivant, on me disait, après le Panthéon, je serai au Parc du Saussay avec une installation et une composition qui s'appelle Virtuose Nature. C'est-à-dire que vous allez dans les bois.
Voilà,
vous allez aussi dans les bois.
Voilà, le Parc du Saussay, c'est près du Bourget. Il y a un RER en plein milieu du parc. Et quand vous arrivez, eh bien, vous allez vous promener pendant, une heure et demie. Et il y aura des musiciens sur tout le parcours et jusque dans la forêt.
Mais pourquoi cette envie d'être ailleurs? Pourquoi ce côté « je suis toujours là où on ne m'attend pas » ou « je vais faire de la musique avec ceux qui n'est pas fondamentalement musical »
Parce que l'idée, c'est d'aller faire de la musique avec ceux au plus près des gens. C'est vraiment un projet politique. C'est l'idée, c'est au lieu de faire venir les gens là où je suis, je préfère aller là où ils sont. Et donc faire un concert dans une usine, c'est la seule façon de toucher les gens qui travaillent dans l'usine. Sinon, ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas dans nos lieux culturels sophistiqués, élitistes et coûteux. Alors que si je vais là-bas, ils sont là. En plus, je vais faire quelque chose qui les concerne. Je vais faire quelque chose à partir de leur travail, de leur contexte, de leur réflexion. Et non, c'est un projet politique qui consiste en fait à mettre l'art là où il doit être, c'est-à-dire ne pas le sortir de la vie quotidienne, et surtout à faire en sorte que ce qui est écrit provient des gens. C'est-à-dire que l'offre culturelle, c'est le monde qui me le donne, c'est pas moi qui le fais.
Et votre temps de composition, il est dans cette rencontre?
Voilà. Souvent, c'est des résidences qui sont très longues. Je reste 1 an, 2 ans, parfois 4 ans. Et je mûris avec les gens. J'arrive dans une usine et je me dis qu'est-ce qu'ils ont à dire, qu'est-ce qu'il y a à dire à cet endroit-là. Et j'écris la pièce par rapport à ça.
Donc vous détestez les salles de concert?
A priori, je les déteste pas, mais je n'y trouve pas mon compte. C'est-à-dire que si c'est pour se mettre dans un écrin de velours pour raconter sa vie personnelle, je ne vois pas l'intérêt. Là, par exemple, pour le saucé, j'ai été voir les gens de l'INRAE, les gens de Saclay, tous les botanistes, et puis j'ai appris beaucoup de choses sur les plantes, et la musique va parler des rhizomes, elle va parler des stomates, elle va parler des racines, elle va parler des champignons. Voilà, c'est ça qui est fort, c'est que la musique, elle sort du sol.
Mais comment la musique parle des champignons ? Je suis un peu naïf, mais je volontairement.
Eh bien, parce que les champignons, c'est un truc incroyable. C'est-à-dire que vous savez que c'est ce qu'on appelle le réseau mycorhizien. C'est pas un champignon tel que nous on le voit, qu'on le mange. Ça, c'est la partie sexuelle, disons, du champignon. Mais champignon, c'est des filaments qui parcourent des centaines de mètres sous les arbres et qui relient tous les arbres entre eux. Donc, c'est au contraire une histoire de circulation, de rhizome. Donc la musique peut parler de ça, peut parler des rhizomes, des sons qui se déplacent dans l'espace, des choses qui sont reliées entre elles. Voilà, c'est une des façons d'en parler.
Vos œuvres ont des titres assez extraordinaires. Il y en a une qui s'appelle « Être », donc ça dit bien votre amour des êtres humains. D'autres s'appellent « Paroles de voiture », ça c'était aux usines Renault. « Poussière d'étoiles », bon, à la Cité des sciences. « Patiemment », dans un hôpital, un concert de bébé à Rennes, un concert de baiser au Palais Royal ou encore le chant de la chair. C'était à Tokyo, à Kyoto aussi, mais aussi à Marseille et à Paris. Et c'était une partition consacrée au son de la peau. Alors on l'entend, Nicolas Frise, mais on ne le voit pas, vous dirigez tel un chef d'orchestre, sauf que les instruments sont des corps, c'est-à-dire des hommes et des femmes presque nus.
Voilà, si, j'aurais préféré qu'ils soient nus, parce qu'il y a des régions du corps qui sont formidables, mais bon, en fait, ils ne le sont pas, ils sont avec un petit maillot de bain qui m'est prêté par Agnès B. Et qui,
ça,
et
c'est
qui,
chic, hein.
Et qui permet... non, mais parce qu'il fallait que tout soit pareil.
Il faut bien trouver des financements.
Il fallait que tout soit pareil. Et du coup, effectivement, dans les régions profondes, c'est-à-dire le ventre, les cuisses, les fesses, on a des graves. Et dans les régions plus osseuses, qui sont les doigts, qui sont le crâne, on a des aigus. Donc on a un vrai instrument de musique, et en plus, vous pourrez essayer tous et toutes, ce soir, dans votre lit, vous verrez qu'il y a au moins une cinquantaine de sons qu'on peut faire avec son corps.
Mais donc c'est drôle ou c'est sérieux ?
Alors c'est très sérieux, mais évidemment en regardant, il y a beaucoup d'humour. Mais moi je fais ça très sérieusement. C'est comme le concert de baiser. Un concert de baiser, on se dit bon, c'est une blague, et Nicolas Frise il exagère. Mais pas du tout. Un baiser, il y a des longs, des courts, il y a des aigus, des graves. Et moi je fais ça très sérieusement. Après les gens l'écoutent comme ils veulent. Mais moi je fais mon boulot de compositeur.
Avec le son des baisers. Vous revendiquez quand même une dimension ludique dans votre travail de compositeur.
Je revendique d'être joyeux. Moi-même.
C'est alors, facile alors... Pas toujours, hein, en ce moment, notamment.
Oui, mais il faut résister. C'est une des façons de résister. Hein. Sinon, parce qu'en fait, notre dépression, notre malheur, notre tristesse nous fait perdre nos moyens pour nous battre. Être joyeux, c'est ce qui nous permet de nous battre.
Vous dites, j'ai lu, le travail que je fais est un travail amoureux.
Oui, je suis quelqu'un d'extrêmement amoureux, tous azimuts.
De la vie, des hommes, des femmes, des animaux, du ciel.
Des plantes, des micros, de vous.
À cause du micro. Et alors, aujourd'hui, donc, votre nouvelle création s'appelle les grandes pensées. Mais alors, là, tout d'un coup, comment on fait de la musique avec des pensées ? Parce qu'il n'y a pas de chair et il n'y a pas de corps. Quelle a été votre matière pour cette installation
Alors
au Panthéon ?
là, ce que je voulais, en fait, c'était... En fait, donc, on lit des textes qui sont comme ça très, très variés, qui disent des choses chaque fois... qui sont sur des modes différents. Il y a des récits, il y a des poèmes, il y a de la philo, il y a des choses plus légères. Et l'objectif, c'était que la musique s'occupe de faire de la concentration. Donc, je voulais à la fois que la musique passe par-dessus le bruit ambiant, parce qu'il y a des gens qui circulent, bien sûr. Hein. Donc, il ne fallait pas qu'on soit pris dans cette ambiance de gens qui marchent. Et en même temps, il fallait qu'on soit concentré. Donc, j'ai imaginé une musique, ce qu'on appelle spectrale, c'est-à-dire que c'est des sons qui sont continus et qui changent tout le temps. Et puis, à l'intérieur de ces sons, il y a des choses qui roulent, il y a des petites billes qui roulent. Il y a des chuchotements, il y a des petits sons hyper aigus qui se promènent. Voilà, c'est des choses, une musique très minimaliste. et qui à la fois attire notre attention et en même temps nous apaise.
Donc allongé dans le transat, lisant des phrases et des mots venant de tous horizons et de tous les siècles, voilà. On peut quand même tendre l'oreille. Nicolas Frise, vous refusez souvent de faire des captations, mais exceptionnellement, vous avez accepté de nous faire écouter un extrait de ces pensées géantes. Donc, on a une petite idée de ce que l'on va entendre au Panthéon, mais en fait, pas vraiment, parce que ce sera très, très bas. Est-ce qu'on l'entendra même ?
Oui, quand même. Oui, on l'entend, mais effectivement, c'est fait pour être en nous.
C'est-à-dire presque de l'hypnose.
C'est-à-dire, voilà, c'est ça, c'est pas loin.
Donc intensité basse, diffusion multiphonie, on va baigner dans cette espèce de magma sonore.
C'est un espèce de sauna, voilà, sonore.
Un sauna sonore, et donc on lit quoi en même temps
Alors on peut lire.
Est-ce qu'il y a une adéquation entre la musique et les textes que l'on lit?
Non, ça aurait été compliqué parce qu'on sait pas à quelle vitesse les gens veulent lire. Ça. Donc on lit, par exemple, il y a des poèmes surréalistes. Vous savez que les surréalistes, on les connaît bien parce que c'est Éluard Breton, etc. Mais on connaît pas les dames. Et donc moi, comme je suis un féministe ardent, j'ai tenu aussi à ce qu'il y ait beaucoup de femmes dans ce projet. Et donc il y a Amy Bridgewater, qui est une femme qui a écrit des poèmes surréalistes qu'on connaît mal. Alice Raon aussi. Et puis il y a de la science-fiction, par exemple des textes un peu fous de Douglas Adams qui se passent dans une espèce de vaisseau. Enfin voilà, il y a aussi des choses très ludique, hein, très sympathique, très nouvelle.
J'espère quand même, si l'idée c'est de donner envie de lire, il ne faut pas que ce soit tout à fait rébarbatif. Nicolas Frise, des prisons au Panthéon, est-ce que c'est un grand écart pour vous ou c'est la même approche, je pourrais dire aussi, des bois du parc de Saussé au Panthéon, est-ce que c'est un grand écart?
Non, c'est un travail militant qui continue d'être partout où il doit être. Le travail en prison, il a commencé il y a 36 ans, hein, ça fait très longtemps que je... Et savez-vous que toutes les archives d'RFI ont été numérisées à la centrale de Saint-Maur ?
Non.
Actuellement, depuis 1991, j'ai monté des studios dans la centrale de Saint-Maur et on numérise les archives de l'INA. Et donc on a numérisé France Culture, France Musique, France Inter et RFI, et puis les radios locales. Et donc, les 4/5 des radios d'RFI sont numérisées en prison par des gens formés et qui s'éclatent de vous écouter.
Donc, nous avons plein d'auditeurs.
Exactement.
C'est un haut lieu pour vous, cette prison centrale de Saint-Maur. Parce que vous y travaillez, vous le dites, depuis plus de
34
ans. Et vous avez créé là-bas vraiment un lieu, quoi, création qui s'appelle le Studio du Temps, c'est ça ?
Voilà, c'est un lieu qui fait à la fois de la formation professionnelle, qui fait de la numérisation d'archives et qui fait de la création, puisque en fait, on vient de faire une nuit de France Culture. On recommence d'ailleurs un autre atelier de création radiophonique pour France Culture bientôt. Et puis, ils reçoivent des musiciens, ils ont des cours de chant, c'est un vrai projet culturel qui vise à contrer un peu les mauvaises habitudes de l'incarcération, qui consiste en fait à nous débarrasser des gens qui nous gênent, mais à les réduire à l'état de légumes, ce qui effectivement nous coûte très cher et nous sert à rien, puisque en ressortant, un légume, ça ne peut pas faire grand-chose de bien.
À part de la soupe.
À part de la soupe, oui, c'est ça, on peut...
Mais en tout cas, c'est une expérience unique, quand même, ce studio du temps.
Ah oui, absolument. Il est unique et malheureusement, il va devoir bientôt s'arrêter. Mais en tout
Pourquoi
cas, parce que l'INA a fini, on a fini le plus gros de l'archivage. Alors, je travaille en ce moment beaucoup pour les Archives nationales, on travaille pour le Conservatoire de Paris, la Philharmonie, mais il n'y a plus beaucoup d'archives. Et malheureusement, ce dispositif incroyable va devoir s'arrêter. Mais c'était une urgence de faire de la numérisation sonore. C'était formidable de le faire faire par des personnes à qui ça offre un métier et qui d'ailleurs le continuent de dehors. Donc c'est un vrai projet, là encore un vrai projet politique de repenser la peine. J'ai écrit 3 livres là-dessus.
Dont le dernier qui s'appelle « Le studio du temps ».
Voilà. J'en avais écrit un premier qui s'appelait « Le sens de la peine », qui est un essai politique sur la question de la peine et de l'emprisonnement. Je suis très perplexe sur la façon dont on traite les criminels. En fait, au lieu de s'occuper qu'ils ne le soient plus, on fait simplement que de les mettre de côté. Et ça, c'est très grave pour nous tous.
Il y a un mot très important, me semble-t-il, pour vous, et qui est sur la première page de votre livre, « Le studio du temps », c'est « desserrer l'étau ».
Oui, parce qu'en fait, on cherche à insérer, mais en fait, comment peut-on insérer quelqu'un quand on l'isole ? Comment peut-on insérer quelqu'un dans une société quand on le met dans 9 mètres carrés pendant 30 ans ? C'est même pas de la bêtise, c'est de l'ignorance, c'est du n'importe quoi. Donc, insérer, ça veut dire le confronter à la société, ça veut dire le faire rencontrer des gens, lui apprendre des métiers. Donc, on va dire, mais comment ça ? Vous voulez vous occuper de gens qui ont fait des choses très graves ? Oui, je veux m'en occuper parce que je ne veux pas qu'ils recommencent. Et donc là aujourd'hui, si vous voulez, les gens qui sortent du studio du temps, il n'y a aucune récidive. Les taux de récidive français sont écrasés. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que les gens se transforment. Si on ne les transforme pas, le viol, il continue. Ça ne sert à rien. La prison est une bêtise, c'est une bêtise en soi. Il faut en faire quelque chose. Si on n'en fait rien, on se tire une balle dans le pied.
Mais vous les entendez, les discours sécuritaires, que ce soit
oui,
à Paris ou aux États-Unis ?
Mais oui, mais les pauvres, ils sont juste ignorants.
Ils sont pauvres, là.
Ces gens qui profèrent ces discours. Si vous voulez, la sécurité, c'est la sécurité à long terme, c'est pas la vengeance à court terme. C'est la sécurité à long terme. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est complètement déconstruit, qui sait plus ce que c'est que l'affectif, qui sait plus ce que c'est que les autres, qui se détruit lui-même et qui détruit les autres. Si vous vous le mettez dans une boîte, vous êtes juste un niais, quoi. Vous êtes un ministre de l'Intérieur, quoi. Il faut s'en occuper. Il faut nous sauver, en fait, si vous voulez. Personne ne voudrait qu'ils ressortent, en fait, comme ça. Alors, comme il faut qu'ils sortent, parce que c'est inadmissible que quelqu'un qu'on ne croit pas dans la nature humaine, on va s'en occuper. Et ce qu'on voit, en fait, quand on le fait bien, c'est que c'est formidable, c'est que les gens sont réparés. Il faut réparer. Donc il faut desserrer. Il faut même desserrer ce qu'il a en lui, parce que cette violence que les gens font aux autres, c'est une violence qu'ils ont en eux. Il faut enlever cette violence en nous.
Mais c'est le compositeur, le musicien qui parle, là. Parce que vous avez réalisé presque une utopie à l'échelle de cette maison centrale.
Oui, c'est une utopie, mais c'est une hétérotopie. C'est-à-dire une utopie qui a un lieu et qui marche et qui fonctionne et dont je peux prouver qu'elle fonctionne par des statistiques, par des visites, par beaucoup de choses. Et il faut absolument entendre ça. Il n'y a que les gens qui disent qu'il faut construire encore plus de places de prison. C'est des gens qui ils sont sympathiques, mais il faut qu'ils se renseignent, il faut qu'ils lisent. Il faut qu'il s'apaise, il faut qu'il fasse l'amour, je sais pas, il faut qu'il mange des bonnes choses, il faut qu'il se détende.
Merci Nicolas Frise. Ce soir, les grandes pensées au Panthéon est inaugurée par Rachida Dati, qui fut garde des Sceaux, ministre de la Justice. Vous allez lui offrir ce livre ?
Ah, bien sûr.
Merci beaucoup. Un livre et une installation, les grandes pensées que les Parisiens pourront voir. Donc ce mardi 11 mars, date de ce quart d'heure national de lecture, et puis le livre Le Studio du Temps est publié aux éditions Ligne. Merci infiniment. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. Merci à vous et on se retrouve demain.